Je vous invite à trouver Actes chapitre 8. Nous allons poursuivre notre série dans le livre des Actes des Apôtres. Et ce matin, nous allons lire Actes 8, versets 1 à 25. Je vais inviter Aurélien à venir. Et pendant que vous cherchez et que vous trouvez ce texte, je vous dis que dans ce texte ce matin, nous rencontrons trois personnage bien différent. Nous allons rencontrer Saul. Je crois que c'est sur l'écran. Le persécuteur zélé. Nous allons rencontrer Philippe, un prédicateur fidèle. Et nous allons rencontrer Simon, un pseudo-chrétien. Merci, Aurélien. Actes 8, 1 à 25.
Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons. On arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il s'y accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans toute la ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'y accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part, ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. La parole de Dieu.
Merci beaucoup, Aurélien. Vous savez, la façon dont on lit la Bible en public est plus importante que la façon dont on prêche la Bible en public. La lecture vaut de l'or. Merci, Aurélien. Actes 8, 1 à 25. Je résume le message de ce matin de la manière suivante. Saul, Samarie, Simon. Saul, Samarie, Simon. Saul, versets 1, 2 et 3. Dans ce verset, nous avons la dernière mention d'Étienne. Et le mot que vous voyez, c'est le mot injuste. Il est mort de façon injuste. Il est mort lapidé pour sa foi en Christ. Ce n'était pas juste, c'était injuste. Étienne était un homme courageux, un homme consacré au Seigneur Jésus. Il est mort pour sa foi. Étienne était enterré par des hommes et des femmes courageux et consacrés à Jésus, parce que ceux-là aussi aimaient Jésus. Ils aimaient Étienne. Et Étienne a été enterré. Il s'ensuit une grande persécution parmi les chrétiens. Les chrétiens sont déplacés. Ils se déplacent ou ils deviennent des réfugiés politico-religieux, si vous préférez. Un grand déplacement des personnes. Et cette persécution était grande par sa violence et grande par son ampleur. Nous avons la première mention de Saul. À vrai dire, c'est la deuxième mention. On a une mention de Saul à la fin du chapitre 7. Et puis, des questions de Saul ici. Et le mot, c'est impossible. Saul veut faire quelque chose qui était impossible. Il veut démolir, détruire l'Église de Jésus-Christ. Les amis, c'est une impossibilité. Jésus dit lui-même que même si toutes les puissances de l'enfer se mettent contre l'Église, l'Église restera debout. Matthieu 16. Impossible. Saul était un homme méchant, un homme violent, un homme qui causait des ravages, qui pourchassait, qui malmenait les chrétiens. Cependant, Saul de Tarse est devenu Paul de Tarse par la grâce infinie de Dieu. Je vais vous montrer un petit résumé de la vie de Paul en un clin d'œil. Saul, le persécuteur, est devenu Paul, le prédicateur. Saul, qui haïssait Jésus, est devenu Paul, qui aimait Jésus. Saul, qui cherchait à détruire l'Église, est devenu Paul, qui cherchait à édifier l'Église. Saul, qui était rempli de folie et de fureur, est devenu Paul, rempli de foi et de fidélité. Saul, qui était anti-Christ, est devenu Paul, qui était entier pour Christ. Saul, qui blasphémait Dieu, est devenu Paul, qui servit Dieu. Saul, qui était citoyen de Rome, est devenu Paul, citoyen des cieux. Saul, qui faisait tant de mal à des chrétiens, est devenu Paul, qui faisait tant de bien aux chrétiens. Et on pourrait passer un dimanche sur chacune de ces lignes. Sachez que nous avons le récit de sa conversion dans Actes 9. Et plusieurs fois dans les Actes et dans les Épîtres, nous avons Paul qui relate sa conversion. Et dans son témoignage, chaque fois, il y a trois étapes dans son témoignage, quand il raconte comment Dieu est intervenu dans sa vie. Il y a l'étape AC, A et C, l'étape PC, l'étape DC. C'est-à-dire, quand il raconte sa conversion, il raconte AC, avant conversion, l'étape PC, le point de la conversion ou pendant sa conversion, et l'étape DC, c'est-à-dire depuis ma conversion. Et je vous encourage, quand vous racontez votre conversion à quelqu'un, comment vous êtes devenu chrétien, tenez compte de ces trois étapes. Expliquez votre vie avant, votre moment de décision pour Christ, et ce que Christ a fait de vous, en vous, avec vous, depuis votre conversion. Saul, premier point. Deuxième point, la Samarie. Comme vous voyez sur la carte, la Samarie était un pays. Ce pays a existé depuis à peu près 7 siècles. Vous voyez la flèche jaune. La Samarie et la capitale, pour faciliter les choses, s'appelait Samarie. Rien de trop compliqué. À l'origine, le pays de la Samarie, donc les habitants étaient les Samaritains, ces habitants étaient un mélange entre juifs, assyriens, babyloniens, perses, un mélange de plusieurs peuples et avec un mélange de religions. Les ancêtres des Samaritains étaient des Juifs, mais malheureusement, les Samaritains avaient adopté plein de rites et de pratiques païens. C'était un peuple idolâtre qui avait accepté un mélange de religions. Les Samaritains étaient ennemis, on va dire, des Juifs. Et on peut dire que dans l'évangile de Luc, il est écrit, il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Ceci dit, dans le Nouveau Testament, nous avons quelques Samaritains célèbres. La femme samaritaine, Jean 4, qui rencontre Jésus, qui se convertit à Jésus et qui organise une convention biblique dans son village avec Jésus comme orateur. Ça devait être formidable. Il y a un lépreux, samaritain. 10 ont été guéris, 1 revient pour dire merci, et c'était un samaritain, pas un juif. Et puis il y a bien sûr la parabole du bon samaritain, Luc 10. Le pays. Ensuite, le visiteur. Qui vient dans ce pays? Eh bien, Philippe. Philippe vient pour annoncer la bonne nouvelle. Il ne s'agit pas de Philippe, un des 12 apôtres, parce que tous les apôtres étaient restés à Jérusalem. Les chrétiens étaient éparpillés, mais les apôtres étaient restés à Jérusalem. Il s'agit de Philippe qu'on a rencontré il y a quelques semaines quand on a étudié Acte 6. Philippe, qu'on appelle parfois Philippe le diacre, mais Philippe est appelé dans Acte 21, Philippe l'évangéliste. Un évangéliste. Philippe vient à Samarie. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient pour prêcher le Christ. Il accomplit des miracles. Il chasse des démons. Et le résultat, c'est une grande joie était dans la ville. Tout le monde était dans la joie. En d'autres mots, Philippe explique la bonne nouvelle. Les Samaritains l'écoutent, les Samaritains croient et les Samaritains se font baptiser. Au verset 14, il est écrit, ils ont fait bon accueil à la parole de Dieu. J'aime bien cette phrase, faire bon accueil à la parole de Dieu. On a la même phrase dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, où Paul dit aux Thessaloniciens, quand j'y suis venu, vous avez fait bon accueil à la parole de Dieu. Et ici, ils ont fait bon accueil à la parole de Dieu. Et ça évoque une question de mon esprit. Est-ce que nous faisons bon accueil à la parole de Dieu? Quand vous lisez la parole de Dieu, il ne suffit pas que de lire. Il faut faire bon accueil. Quand vous lisez la Bible, est-ce que vous dites « bof » ou est-ce que vous dites « bien » C'est bon, Seigneur, cette bonne nourriture que Dieu me donne. Les amis, faisons bon accueil à la parole de Dieu, parce que c'est notre nourriture spirituelle qui doit être une nourriture spirituelle quotidienne. Numéro 3, la Dream Team. Qu'est-ce que c'est la Dream Team? Eh bien, grâce à France Info et grâce aux envoyés spéciaux de BFM TV, les apôtres à Jérusalem ont entendu parler de ce que Dieu faisait à Samarie. C'est formidable, les réseaux sociaux maintenant. Et à cette époque-là, Jérusalem se trouvait à une 50aine de kilomètres de la ville de Samarie. Les apôtres entendent parler de ce qui se passe et ils envoient 2 envoyés spéciaux en la personne de Pierre et Jean. Ça aurait pu être Pierre et André, son frère, mais non, il s'agit de Pierre et Jean. Et chose intéressante, on trouve Pierre et Jean ensemble, assez souvent, dans le Nouveau Testament. Par exemple, les deux étaient responsables d'une PME. On voit ça dans Luc 5. Pierre et Jean étaient les 2 disciples que Jésus a envoyés pour préparer le repas de la Pâque. On lit ça dans Luc 22. Pierre et Jean, le jour de la résurrection de Jésus, courent tous les deux au tombeau parce qu'ils voulaient voir avant de croire, me semble-t-il. Et vous savez que un arrive plus tôt, parce qu'il avait l'habitude de faire du sprint, et l'autre qui était pas aussi vieux que moi, mais il a eu du mal à courir, et l'autre qui était bien sûr Pierre, il arrive. Et puis les deux sont là pour voir le tombeau vide. Dans Actes 3 et 4, on retrouve de nouveau Pierre et Jean ensemble, et on voit qu'ils ils accomplissent des miracles, ils voient des conversions, ils prêchent, et les deux ont été jetés en prison. J'imagine qu'il y avait des liens très forts entre Pierre et Jean. Pierre et Jean arrivent, et pour montrer qu'aucune barrière ne doit exister entre les chrétiens, quelles que soient leurs origines ethniques, linguistiques ou autres, Pierre et Jean viennent et ils prient, et des nouveaux chrétiens reçoivent le Saint-Esprit. On peut dire, mais c'est bizarre, c'est anormal. Est-ce que c'est vraiment bizarre ou anormal? Rappelez-vous que dans le livre des Actes au chapitre 2, les premiers juifs convertis ont reçu le Saint-Esprit de façon particulière, sinon spectaculaire. Acte 2, les premiers juifs. Ici, en acte 8, les premiers samaritains qui se convertissent reçoivent le Saint-Esprit de façon particulière. Peut-être pas spectaculaire, mais particulière. En acte 10, de nouveau, les premiers non-juifs reçoivent le Saint-Esprit de façon particulière après la conversion de Corneille et de sa famille. Vous voyez, les juifs, les samaritains, les non-juifs. Après ça, plus rien. Et Paul nous dit que tout chrétien reçoit le Saint-Esprit au moment de sa conversion. Mais pour montrer à l'époque des Actes des Apôtres, qui était une période transitoire, il faut bien se rappeler, pour montrer que les chrétiens étaient un en Christ, Pierre est utilisé par le Seigneur pour accomplir des choses qui étaient uniques. Et depuis lors, tout chrétien reçoit l'Esprit dès sa conversion. Et si vous croisez un chrétien qui vous dit, si vous êtes chrétien, que vous n'avez pas le Saint-Esprit, eh bien, vous pouvez leur dire, ben oui, tout chrétien a l'Esprit. Nous avons tous été baptisés du même Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. La Dream Team, on va laisser la Dream Team de côté. Et un petit bémol. Un petit bémol. Un certain Simon est témoin de toutes ces choses. Il regarde tout ce qui se passe. Il étudie les phénomènes qu'il constate. Nous lisons au verset 13 et 18 que Simon était attiré vers le surnaturel. Et nous lisons aussi que Simon avait envie de cette même puissance qu'avaient Pierre et Jean. On lit même qu'il était prêt à donner de l'argent à Pierre et Jean pour avoir cette puissance, pour avoir les mêmes pouvoirs. Il voulait acheter des dons que Dieu donne. Si on reçoit un don, eh bien on ne peut pas acheter un don. Un don est donné gratuitement. Et il est écrit que Simon croit. Il s'est même fait baptiser. Mais on peut dire, mais qu'est-ce qu'il croit au juste? Qu'est-ce qu'il croit? Alors parlons un peu plus en détail de Simon. Simon veut acheter les dons de Dieu. Mais même si on est Bill Gates, ou la reine Elisabeth, ou J.R. Rowling, ou d'autres multimilliardaires, personne ne peut acheter une grâce ou la grâce de Dieu. Simon. Il y a une dizaine de Simons dans la Bible. Un dans l'Ancien Testament et 9 dans le Nouveau. Vous connaissez Simon-Pierre, disciple de Jésus. Vous connaissez peut-être Simon, un des frères de Jésus. On a les noms des frères de Jésus, des enfants de Joseph et Marie dans le Nouveau Testament. Et un frère de Jésus s'appelait Simon. Le père de Judas s'appelait Simon. Et ici, il s'agit de Simon le sorcier. Alors, quelle est la réaction de Simon face à ce qu'il voit? Simon était quelqu'un qui pratiquait la magie. Il possédait des dons, on va dire, surnaturels. Donc des dons pas naturels, pas tout à fait humains. Simon était une vedette incontestée de la capitale de la Samarie. Il est écrit que les gens étaient émerveillés par ce qu'il faisait. Les gens étaient étonnés par ce qu'il disait, par ce qu'il faisait. À tel point que les gens disaient, cet homme, Simon, il est la puissance de Dieu. Ils ne disent pas, il a la puissance de Dieu, mais ils disent, il est la puissance de Dieu, du verbe être. C'est-à-dire, on dirait que les Samaritains croyaient que Simon était Dieu incarné en chair et en os. C'est très fort. Très fort. Tellement les gens étaient époustouflés par les dons de Simon. Il est écrit, les Samaritains croient. Il est écrit que Simon croit. Et Simon suit Philippe partout où il va. On peut dire que Simon, qui étonnait les foules, était lui-même étonné par les miracles prodigués par Philippe. La foi de la foule était une foi sincère, réelle, tandis que la foi de Simon s'avère être une foi insincère et superficielle. Vous savez, c'est facile pour quelqu'un de dire « je crois ». Oh, je crois. Quand quelqu'un vous dit « je crois », vous devez lui poser deux questions. Mais quel est le fondement de ta foi? Si la personne dit « oh, je crois que Dieu existe », ça ne suffit pas. Si quelqu'un dit « oh, je crois que Jésus est mort, que Jésus était un homme qui était bon », ça ne suffit pas. Si on dit « je crois que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il est monté au ciel et qu'un jour il va revenir », là, on commence à parler de la doctrine biblique, théologique et évangélique. La deuxième question, mais quels sont les fruits de ta croyance? Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de ton comportement, au niveau de ton vocabulaire, au niveau de tes passe-temps, au niveau de ton caractère? Est-ce que tu es moins grincheux qu'avant ta conversion? Est-ce que tu es moins boudeur qu'avant ta conversion? Il me pose tout un tas de questions. Y a-t-il des fruits? Et on a le droit de se poser cette question parce que Jésus a dit dans Matthieu 7, c'est à leurs fruits que vous reconnaîtrez qui sont mes disciples. Le fondement et le fruit. Simon croit, mais son fondement et le fruit n'étaient pas bons. Vous savez, il y a plusieurs niveaux de la croyance. On peut croire dans la tête, c'est intellectuel. On peut croire dans son cœur, c'est sentimental. Mais il faut une foi qui est basée en partie sur l'intelligence, en partie sur le cœur. Alors, c'est quoi le cœur? On peut dire les sentiments, la conscience qui est troublée et aussi la volonté qui s'engage. Une vraie conversion implique l'intelligence, les sentiments, la conscience et la volonté. C'est-à-dire, je me donne à toi. Revenons à Simon. Il fallait qu'il apprenne que la magie et la foi chrétienne sont totalement incompatibles. Je répète, Simon devait apprendre que la magie et la foi chrétienne étaient totalement incompatibles. Et je peux vous dire que rien n'a changé. Aujourd'hui, nous devons dire que les pratiques occultes, la magie et la foi sont totalement incompatibles. Simon avait un choix à faire. Être 100% pour Dieu ou 100% pour le diable. Simon, il voulait acheter la puissance de Dieu. La réaction de Pierre. Alors, la réaction de Pierre est sans appel. Il ne cherche pas midi à 14 heures. Il dit à Simon, ton argent est pourri. Ton cœur est pourri. Tu n'as rien compris au film. Enfin, il n'a pas dit tout à fait ça. Tu n'as rien des chrétiens. Repends-toi. Renonce à ton péché. Renonce à tes péchés. Renonce à tes pratiques sataniques. Tu as été pris en otage par Satan. Tu es prisonnier du mal. Tu es enlisé dans le mal. Tu as été ligoté par le péché. Pierre va droit au but. La réaction de Simon, « Ah, est-ce que tu veux bien prier pour moi ?» Il demande aux apôtres de prier pour lui. Mais les apôtres ne peuvent pas prier pour quelqu'un qui ne veut pas renoncer à son péché. C'était à Simon de prier. C'était à Simon de renoncer à ses pratiques. C'était à Simon de se repentir, de se détourner de son ancienne vie. Mais manifestement, Simon ne tient pas trop à ne plus être la vedette de la vie de sa mari. Il tient trop, paraît-il, à ses péchés, à ses pratiques occultes. Il est dominé par Satan et personne ne peut se repentir à sa place. C'est à lui de se repentir. C'est à lui de renoncer à ses péchés. Personne ne peut faire ça à sa place. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette histoire, ce récit se termine par un échec? Actes 8, 1 à 25. Alors, en ce qui concerne Simon, on peut dire, oui, s'il ne se repent pas, c'est en partie un échec. Mais, quand on voit toutes les conversions qu'il y a eu, tous les baptêmes qui ont eu lieu, plus tous les villages non atteints par l'Évangile, qui ont été atteints par l'Évangile, parce que Pierre et Jean ont voyagé dans plusieurs villes et villages en Samarie pour apporter la bonne nouvelle. Alors là, on peut dire que ce n'était pas un échec. Dieu a ouvert des portes et des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus se sont convertis et des églises sont certainement nées dans plusieurs villages et dans plusieurs villes. Mais ça fait quand même mal au cœur que Simon ne veuille pas renoncer à sa façon de faire, à sa façon d'être. Vous savez, dans le ministère Brigitte et moi, on a eu beaucoup de contacts avec des gens qui avaient des pratiques occultes. Certains se sont convertis parce qu'ils se sont repentis, étaient délivrés sur le champ. Et d'autres avaient un camp le dimanche matin quand ils venaient à l'église. Et l'autre, un foot dans un camp et un pied. Qu'est-ce que je raconte? Un pied dans un camp quand il venait le dimanche et un pied dans l'autre camp. Quand en semaine, il guérissait des gens ou il faisait venir des gens pour imposer les mains parce qu'il y avait une chaleur qui sortait de leurs mains. Et ces gens-là ont disparu de la circulation parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à leur péché. Je vais conclure. Je vais vous montrer une liste sur l'écran. Et rien que cette liste pourrait occuper plusieurs dimanches, plusieurs prédications ou études bibliques. Une liste de certaines pratiques occultes. Je ne peux pas les commenter ni les détailler. Essayez de contacter l'esprit d'un mort par le moyen d'une médium ou d'un spirit. Il est impossible de contacter les morts quand ils sont morts. Mais des spirites ou des médiums peuvent faire semblant de faire venir quelqu'un qui est mort. Le Ouija, qui est un jeu qui est très en mode parmi beaucoup de jeunes. Consulter un voyant, une voyante pour connaître son avenir. L'horoscope, le thème astral, la numérologie, les boules de cristal, ça existe, les boules de cristal. On plaisante parfois, mais ça existe. Lire les marques de marre de café au fond d'une tasse. La cartomancie. Lire l'avenir ou prédire l'avenir au moyen des cartes. La chiromancie. La lecture des lignes de la main. Se faire soigner par des guérisseurs, des rebouteux au moyen de pendules, l'imposition des mains, des magnétiseurs, les marabouts et que sais-je encore. La liste est longue. Mais voilà quelques pratiques occultes très courante à Lyon, parmi des gens très instruits, parmi des gens qui n'ont aucune instruction. On en connaît plein. Et je suis sûr que vous connaissez des gens qui sont attirés vers le surnaturel, le côté mauvais, l'occultisme satanique, ténébreux. Eh bien, c'est sûr, on doit prier pour ces gens-là, mais on doit les avertir et les appeler à se repentir. Parce qu'ils ont été, comme Simon, emprisonnés par Satan, ligotés par Satan. Ils ont été aveuglés par Satan, enchaînés. Certes, on doit prier pour eux, mais c'est à eux de se repentir, de renoncer à leur pratique et de s'en détourner. Et suite à cela, Dieu va les libérer. Ils doivent aussi prendre des mesures draconiennes parfois, ces gens-là. Couper les liens, couper, brûler les ponts, arrêter tout contact. Et ça peut coûter. Mais suivre Jésus comme disciple, ça coûte de toute façon pour chaque vrai disciple. Certes, le diable est puissant. Certes, ce qui est encore plus sûr, c'est Dieu est le tout-puissant. Et Dieu seul peut libérer, pardonner, délivrer les Lyonnais qui sont pris dans ces choses-là. Et le Seigneur nous a déjà pardonné et libéré, délivré certainement parmi nous, certaines personnes. Et à Dieu soit la gloire. Je termine avec la lecture de quelques lignes de ce chant. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armée de lumière, couronnée d'éclat, soyons sur la terre messagers de joie. Quel que soit notre passé, Dieu est le libérateur, le sauveur, et il vient nous donner la main, et il est là, parce que sa main souveraine règne dans le monde et veut régner dans notre vie. Que le Seigneur nous aide à prier, certes, pour les personnes qu'on connaît, qui sont à fond dans les pratiques occultes, mais que Dieu ouvre leurs yeux pour qu'ils se repentent, pour qu'ils soient sauvés, pardonnés et délivrés. Prions. Notre bon Père Céleste, nous te sommes reconnaissants parce que tu es le Tout-Puissant. Ce qui est impossible aux hommes et aux femmes, tout est possible à Dieu. Nous te remercions car rien n'est étonnant pour le juge de l'univers. Nous te prions de nous convaincre jour après jour que ta main souveraine est sur nous. Ta main toute-puissante est avec nous. Et nous te prions de nous aider dans notre témoignage pour qu'on puisse être des lumières dans ce monde de ténèbres. Nous te remercions de nous avoir délivrés et sauvés de nos péchés et des conséquences de nos péchés. Et nous prions, Seigneur, pour des gens que nous connaissons qui sont enlisés dans le mal, pour que tu nous aides à être des témoins, mais que tu leur donnes aussi, surtout, à se repentir et à se détourner de ces pratiques que tu appelles abominations. Merci pour Jésus qui est le Sauveur, qui est celui qui nous a rachetés de tout péché. Que son nom soit loué et élevé. Amen.